Alors, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on est rendu à l'Épître aux Romains. Alors, dans notre étude du livre de l'Épître aux Romains, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc son auteur, ses destinataires, le lieu et la date de composition du livre. Le contenu, son but principal, ses thèmes, sa structure littéraire, les plans du livre et quelques observations. Alors, on va commencer par l'arrière-plan du livre de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est non seulement la plus longue des épîtres de Paul, mais elle est aussi la mieux structurée, la plus riche sur le plan doctrinal, et celle qui a joué le plus grand rôle dans l'histoire du christianisme. L'auteur. L'apôtre Paul a dicté l'épître à Tertius. L'authenticité de l'épître n'a jamais été sérieusement contestée. On y reconnaît le caractère et le génie de Paul, qui le qualifiait pour rédiger l'exposé le plus systématique et le plus complet des vérités du salut. On trouve des allusions ou des citations de cette lettre chez Clément de Rome, Ignace, Justin Martyr, Polycarpe, Hippolyte Marcion, le canon de Muratori, les versions vieilles latines et syriaques. Dès l'époque d'Irénée, l'épître est universellement reconnue comme paulinienne et canonique. Les preuves internes sont également très fortes. L'auteur affirme être Paul. Ce qu'il dit de lui-même ne s'applique qu'au grand apôtre des païens. Le style, l'argumentation, la doctrine sont visiblement de Paul. Il n'est pas surprenant que l'Épître aux Romains ait joué un si grand rôle dans l'histoire de l'Église. Son influence a été immense sur Augustin, les réformateurs, le réveil de Genève en 1817, et sur tous les grands renouveaux de la pensée et de la foi chrétienne. Les destinataires. À l'Église de Rome, fondée probablement par des chrétiens convertis par Paul et par d'autres apôtres itinérants, au chapitre 16, Paul salue 26 personnes réparties dans 5 églises de maison. L'Église existe depuis plusieurs années. Elle compte quelques éléments juifs, mais la plupart de ses membres sont d'origine païenne, les noms grecs et latins du chapitre 16. Lieu et date de composition. En l'an 57 après Jésus-Christ, Paul vient de terminer la collecte pour les chrétiens à Jérusalem. Il est sur le point de partir pour la Palestine. La rédaction de Romains se situe donc au cours du troisième voyage missionnaire, pendant les 3 mois que l'apôtre a passé à Corinthe. Le deuxième point qu'on va regarder, le contenu de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est la plus longue et d'un point de vue théologique, la plus importante des lettres de Paul. L'Évangile sous sa forme la plus pure, selon Luther. La lettre se présente sous la forme d'un traité théologique encadré par une introduction et une conclusion épistolaire. L'introduction comprend la salutation et l'expression de reconnaissance habituelle. Elle s'achève par une présentation transitionnelle du thème de la lettre, l'Évangile comme révélation de la justice de Dieu, justice qui ne peut être reçue que par la foi. Donc, à partir du verset 18 dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 25, c'est vraiment l'Évangile comme justice de Dieu reçue par la foi. La justice de Dieu reçue par la foi est le thème de la première grande section de la lettre. Paul ouvre la voie à ce thème en expliquant pourquoi il était nécessaire que Dieu manifeste sa justice et pourquoi les humains ne peuvent connaître cette justice que par la foi. Le péché, affirme Paul, a la mainmise sur tous. Et seul un acte de Dieu, reçu par la foi comme un don gratuit, peut briser cet étau. La colère de Dieu, le déversement de sa sainte fureur, menace tous les pécheurs. Ce n'est d'ailleurs que justice, car Dieu s'est fait connaître à tous par sa création. Les êtres humains qui se sont détournés de lui pour adorer des dieux de leur propre conception n'ont aucune excuse. Les Juifs en ont même encore moins, car leur loi contient une présentation claire et détaillée de la volonté de Dieu. Ni la simple possession de cette loi, ni le fait de porter le signe de l'Alliance, qui est la circoncision, ne suffisent à protéger les Juifs de la colère de Dieu. Paul en conclut donc que tous, Juifs comme païens, sont esclaves du péché et ne peuvent faire quoi que ce soit qui les mette en relation avec Dieu. Seul Dieu peut transformer cette situation tragique. Il l'a fait en offrant par le sacrifice de son Fils un moyen de devenir juste ou innocent devant lui. Cette justification, souligne Paul, ne peut être acquise que par la foi, comme l'illustre sans ambiguïté le cas d'Abraham. À partir du verset 1 du chapitre 5, aller jusqu'au chapitre 8, 39, on a l'Évangile comme puissance de Dieu pour le salut. Après avoir montré comment les humains peuvent être déclarés justes devant Dieu par la foi, Paul, dans la deuxième grande partie de la lettre, met en lumière les conséquences de cet acte pour le jugement futur et pour la vie terrestre présente. Être justifié signifie être en paix avec Dieu ou réconcilié avec lui. Il s'agit en particulier d'une espérance sûre de salut pour le jour du jugement. Cette espérance est enracinée dans la relation du croyant avec le Christ, qui, annulant les effets du péché d'Adam, a acquis la vie éternelle pour tous ceux qui lui appartiennent. Néanmoins, bien que transféré dans une sphère nouvelle où règne le Christ, la justice, la grâce et la vie, les chrétiens demeurent en lutte contre les puissances de la sphère présente, le péché, la loi, la mort et la chair. Mais ils peuvent lutter avec confiance, sachant que le Christ les a libérés de la tyrannie de ces puissances. Le péché ne peut plus leur dicter ses conditions. Dieu est désormais leur maître, ce que leur vie doit refléter. De même, la loi qui, à cause du péché, rendait la situation des humains pire et non meilleure, ne tient plus le croyant sous son emprise. Par l'action du Saint-Esprit, les chrétiens se voient assurés de la victoire finale sur la mort et le pouvoir de la chair. Ce même esprit qui fait d'eux des enfants de Dieu leur offre une assurance supplémentaire. L'œuvre que Dieu a commencée en eux sera conduite jusqu'à sa conclusion triomphale et la justification conduira assurément à la glorification. À partir du chapitre 9, verset 1, jusqu'au verset 36 de chapitre 11, on a vraiment l'idée, le thème de l'Évangile et d'Israël. La question du rapport entre la loi et l'Évangile, entre Juifs et païens, entre le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance, est un des motifs essentiels qui parcourt Romains 1 à 8. C'est aussi le thème de la troisième grande section de la lettre, le transfert des privilèges de l'Alliance d'Israël à l'Église. Signifie-t-il que Dieu a renoncé aux promesses qu'il avait faites à Israël? Non, répond Paul. Premièrement, les promesses de Dieu n'ont jamais garanti de salut à tout Israélite en vertu de sa naissance. Deuxièmement, le peuple d'Israël lui-même est coupable d'avoir refusé d'accueillir la justice de Dieu en Christ malgré la parole que Dieu lui avait adressée. De plus, certains Israélites, comme Paul, ont reçu le salut. En eux, les promesses de Dieu s'accomplissent. Arrive enfin le point culminant du raisonnement, où Paul s'oppose à la vantardise arrogante de certains pagano-chrétiens en leur rappelant que c'est seulement par l'intermédiaire d'Israël que le salut leur est parvenu et que vient un jour où la promesse faite par Dieu à Israël trouvera son plein accomplissement et où tout Israël sera sauvé. Et enfin, la dernière partie qui va du chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13. Alors, c'est vraiment le thème de l'Évangile et la transformation de la vie. La dernière grande section du traité théologique de Paul est consacrée à la mise en œuvre concrète de la grâce de Dieu révélée dans l'Évangile. Dans un résumé initial, Paul rappelle à ses lecteurs que cette grâce de Dieu devrait les inciter à se donner eux-mêmes en sacrifice pour le service de Dieu. Ce service peut prendre diverses formes, avec l'exercice des dons variés que Dieu a confiés à son peuple. Les nombreux aspects détaillés de ce service de Dieu doivent être empreints d'amour. Servir Dieu ne signifie pas, avertit Paul, que les chrétiens peuvent ignorer les sollicitations légitimes du gouvernement à leur égard, ni que les chrétiens, bien que libres à l'égard de la loi, peuvent ignorer la validité permanente du commandement qui résume la loi, aimer son prochain comme soi-même. Les chrétiens doivent servir Dieu de cette manière, sachant que le jour du salut éclaire déjà de ses rayons leur chemin, et que la vie du croyant doit réfléchir cette lumière. Enfin, Paul s'attaque à une question qui était apparemment source de grande discorde dans l'Église de Rome, et certainement ailleurs, le respect de certaines règles et rituels alimentaires. Certains des chrétiens de Rome s'enorgueillissaient d'être forts dans la foi et regardaient les autres de haut, ceux qui n'étaient pas convaincus que leur foi les autorisait à manger n'importe quelle nourriture ou à ignorer les jours cultuels institués. Ces derniers accusaient de compromis ceux que l'on appelle les forts dans la foi. Paul, tout en se mettant du côté des forts, exige de chacun des partis le respect des opinions des autres et les invite à apprendre à vivre dans la tolérance réciproque. La conclusion épistolaire, qui va de 15-14 à 16-27, contient des informations sur la situation de Paul et ses projets de voyage, une requête de prière liée à l'accueil de la collecte par les chrétiens de Judée, la recommandation d'une sœur en Christ et une longue série de salutations et une mise en garde finale contre les faux docteurs suivie de notes personnelles et d'une bénédiction. Troisième point qu'on va regarder, c'est le but principal de l'Épître aux Romains. Paul a maintes fois désiré voir les chrétiens de Rome pour donner à la foi de ces jeunes convertis un fondement solide. Mais chaque fois, il en a été empêché. Présentement encore, il ne peut se rendre dans la capitale car il doit porter la collecte à Jérusalem. Donc, il écrit aux Romains, premièrement dans un but didactique, pour préparer sa visite. Paul écrit aux Romains pour préparer sa visite avant de se rendre en Espagne, et peut-être faire de cette église son port d'attache occidental, comme Antioche l'était pour les provinces orientales. Pour cela, l'église devait être solidement fondée dans la foi, donc bien enseignée. Or, elle n'avait jamais bénéficié de l'enseignement d'un apôtre. Paul va donc leur exposer tout le plan de Dieu pour le salut des hommes. Le but didactique se rattache donc directement à ce but immédiat. Autre but, un but apologétique, pour empêcher l'influence des judaïsants. Pour soutenir pleinement l'apôtre, l'Église de Rome doit être inaccessible aux influences des judaïsants et aux arguments des contradicteurs. Elle doit être bien unie et n'avoir aucun doute au sujet de l'Évangile prêché par l'apôtre et par des principes qui le guident dans son action. Le deuxième but de la lettre sera donc apologétique. Le troisième but est un but pratique, une demande de prière et un affermissement des liens personnels. Pour qu'il parvienne sain et sauf jusqu'à Rome, il lui faut passer d'abord le cap de Jérusalem. C'est pourquoi il demande aux Romains de le soutenir par la prière. Il profite de cette lettre pour renouer et affermir les liens personnels qui le lient à des chrétiens de Rome. Ces passages répondent à un but pratique. Quatrième but, le but de son testament spirituel. À ces différents buts, on peut rattacher un but personnel. L'apôtre se trouve à un tournant de son activité missionnaire, ayant derrière lui les luttes contre les judaïsants et les problèmes causés par les différentes églises du bassin méditerranéen oriental, en particulier par celle de Corinthe. Il profite de ces quelques mois de répit à Corinthe pour faire en quelque sorte le bilan de sa pensée et la mettre sous une forme plus structurée et plus permanente. Prévoyant de sérieuses difficultés à Jérusalem, dont il ne connaissait pas l'issue, il se disait peut-être qu'il laisserait du moins, par cette lettre, pour l'Église de la capitale et pour les générations futures, une sorte de testament spirituel, résumant l'essentiel de ce qu'il appelle ailleurs son Évangile. Et le cinquième point qu'on va regarder, quatrième point qu'on va regarder, c'est les thèmes et la structure littéraire de Romains. La phrase clé de l'Épître se trouve en 1:17, où ça dit « La justice de Dieu par la foi ». Cette phrase encapsule en quelque sorte le cœur de l'Épître. L'Épître aux Romains est écrite pour montrer aux pécheurs et aux pécheresses comment la justice de Dieu peut être reçue par la foi en Jésus-Christ. Le thème de la justice divine qui parcourt le livre est reflété dans son plan. La révélation de la justice de Dieu, chapitre 1 à 8, la défense de la justice de Dieu, chapitre 9 à 11, et l'application de la justice de Dieu, chapitre 12 à 16. À travers le contexte de ce thème prédominant, Paul discute du besoin pour l'humanité pécheresse de la justice de Dieu. L'imputation de la justice de Christ aux pécheurs dans la justification et la sanctification des rachetés. De plus, Paul discute de la justice de Dieu telle que révélée dans sa fidélité aux promesses de l'Alliance à Israël et la justice que les chrétiens doivent déployer entre eux et devant le monde. Dans sa présentation du plan du salut de Dieu, Paul passe de la condamnation à la glorification et de la vérité théologique au comportement pratique. Les mots-clés, comme la justice, la foi, la loi et le péché, apparaissent au moins 60 fois dans l'Épître. Alors, la semaine prochaine, on va regarder un petit peu les deux plans en détail. On ne le fait pas d'habitude, là, mais pour l'Épître aux Romains, je tiens à ce qu'on le fasse parce que c'est une épître extrêmement importante et c'est extrêmement important d'en saisir le déroulement, la structure, de comprendre que Paul est en train d'expliquer le salut de Jésus-Christ. C'est une des lettres qui est plus importante des épîtres de Paul. Alors, on va étudier ça un peu plus en profondeur la semaine prochaine.